Père céleste, nous bénissons ton nom, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Tu es notre Dieu, tu es celui qui nous a réunis ce soir, qui est au milieu de nous et qui veut te manifester à chacun de nos cœurs. Parce que, Seigneur, tu es digne d'être adoré, d'être connu, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand nous étions dans nos ténèbres, Seigneur, tu es venu nous chercher. Merci parce que nous sommes là, tes enfants, tes fils et tes filles. Seigneur, nous te remercions pour les jeunes qui ont eu ces moments vraiment bénis ensemble là-bas à l'IBG. Nous te les remettons, Seigneur. Nous crions à toi pour qu'ils reviennent vraiment fortifiés dans leur être intérieur, Seigneur, qu'ils soient vraiment rayonnants de paix, de joie et de foi, Seigneur, qu'ils aient vraiment cette foi, cette confiance totale en toi. Nous te remettons aussi Didier, Seigneur, notre frère, et merci pour le mieux qu'il y a. Seigneur, pose ta bonne main, merci que vraiment il soit bien portant, Seigneur, que tu vois ses antécédents de santé, mais nous comptons sur toi, Seigneur, de le remettre vraiment debout, lui ainsi que son épouse Claire, Seigneur, nous te les remettons. Te remettons aussi Joël, Seigneur, l'épouse de notre frère Georges, et Seigneur, nous crions à toi aussi, que tu puisses la relever, et merci pour ce que tu as déjà fait dans son corps. Et nous te crions que tu ailles plus loin, Seigneur. Nous te remettons aussi Joël, Barbereau, Seigneur. Nous te le remettons et nous voulons te remercier aussi du mieux qu'il y a. Mais Seigneur, là aussi, merci d'amener ton œuvre à la perfection et vraiment de le ressourcer, de le relever, de lui redonner, Seigneur, l'espoir, l'espérance, la ferveur d'esprit, Seigneur. Merci vraiment de... pour ton enfant Joël, nous te remettons Patricia aussi, et Kim, Seigneur, tu vois cette famille, Seigneur, qui est vraiment éprouvée au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, mais Seigneur, nous avons cette confiance aussi en toi que tu vas agir, tu as agi, tu agis, tu agiras, et nous avons confiance en toi que tu amèneras là aussi à la perfection, et qu'il y ait, Seigneur, un appartement ou une maison. Mais Seigneur, que tu leur donnes un toit. Merci Seigneur aussi de songer à leur santé, Seigneur aussi. Te remettons aussi Stéphane, notre frère, qui lui aussi, Seigneur, est dans une situation délicate. Tu vois, Seigneur, tous ses problèmes, ses antécédents. Nous crions à toi et tends ta main sur lui, Seigneur. Et merci là aussi de le relever, que sa foi, Seigneur, ne défaille pas. Mais qu'il continue de te faire confiance. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te remettons cette étude, ce moment de partage ensemble, et nous te remettons ton serviteur Josias aussi, que vraiment tu lui donnes une double onction de ton esprit, qu'il parle, qu'il ait la connaissance, Seigneur, que tu lui ouvres l'esprit aussi, que tu ouvres nos cœurs afin de recevoir la parole, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Jean a prié pour un moment de partage, alors n'hésitez pas à partager, à intervenir. Ça donnera un aspect un petit peu plus vivant peut-être à l'étude, quand c'est toujours la même personne qui parle, surtout qu'on ne peut pas avoir le projecteur là, donc ça sera peut-être bien si vous avez des compléments, ou même si vous n'êtes pas d'accord forcément avec certaines choses, c'est bien de le partager. Alors ce soir, le sujet, c'est l'Église. Alors, le hasard du calendrier, c'était programmé depuis septembre, et les jeunes ont demandé, il n'y a pas trop longtemps, ce sujet aussi, donc il risque d'y avoir des recoupages. C'est le hasard, comme dirait Jean avec un grand
Je ne fais que réitérer.
On sait que tout est conduit de toute manière. Mais voilà, alors ce soir on va avoir des généralités. Et puis Dieu voulant, la prochaine fois on verra un petit peu plus en détail le fonctionnement de l'Église locale selon la Bible et peut-être comparé aussi selon des habitudes. Et est-ce que ces habitudes sont fondées sur la parole de Dieu ou est-ce que... Il y a peut-être aussi une tradition qui s'est installée même dans le monde évangélique. Ça sera peut-être l'occasion aussi de réfléchir là-dessus. Mais ce soir, donc, ce sont des généralités. Je vous ai mis quelques versets, comme d'habitude. Alors je m'en garde un parce qu'après je ne me rappelle pas ce que j'ai mis. Si vous voulez...
vais partager. Alors on aura pas mal de versets, hein. J'en ai mis certains entre parenthèses, je pense que j'ai oublié de tous les mettre. Ceux qui sont entre parenthèses, on ne va pas forcément les prendre pour pas non plus alourdir le moment. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, dans le langage courant, quand on parle d'église, en général, on pense à un bâtiment. Avec Jean-Philippe, on a un jeune collègue qui habite juste à côté. Et souvent, il me dit « Ah, ben tiens, je suis passé devant l'église et puis j'ai vu ta voiture. Hein. » Je dis, pourquoi t'es pas rentré? Oh non, moi, rentrer dans une église, ça m'intéresse pas. Hein. Bon, voilà, pour lui, c'est un bâtiment, donc c'est souvent ça, hein, dans le langage courant. Ou alors, c'est aussi un mouvement, hein, l'église catholique, l'église anglicane, l'église réformée, etc. Voilà. Dans la parole de Dieu, alors c'est le mot ecclésia qui est utilisé. On verra ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça peut désigner aussi une assemblée de personnes. Par exemple, j'ai noté plusieurs versets, je vous lis juste Actes 19, 39. Vous savez, il y a une émeute à Éphèse à cause de l'annonce de l'évangile. Et alors, il parlait du secrétaire, en fait, c'est le, on va dire le maire d'Éphèse, qui prend la parole pour calmer la populace. Et puis, il va dire, si vous avez des choses à voir, eh bien, elles se régleront au tribunal. En fait, il va dire, elles se régleront dans une assemblée légale. L'assemblée, mais le mot c'est ecclésia, donc c'est église. Et on a comme cela environ 4-5 emplois de ce terme, on va dire dans le sens un petit peu plus séculier, mais aussi non, une centaine de fois, ce terme est utilisé et il a un contenu spirituel. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il signifie et il désigne un peuple qui a été appelé hors du monde, hors des choses de ce monde. Et on se rend compte dans la parole de Dieu que ce terme va être utilisé avec deux sens différents. Le premier sens, c'est le sens universel. Alors universel, en grec, vous savez comment ça se dit ? Catholique.
Ah bon ?
Oui. Mais c'est catholique avec un petit C, hein. Rien à voir avec l'église catholique, l'église de Rome. Hein. Mais voilà. Et on verra qu'il y a d'autres sens aussi qui sont assez intéressants. Voilà. Et dans ce sens universel, quand on lit tous ces passages, tous ces versets, eh bien, on se rend compte qu'il s'agit de celles et ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent au Seigneur et qui forment, dans leur ensemble, l'Église de Jésus-Christ. Il y a énormément de passages, de versets qui vont dans ce sens, qui nous montrent que, voilà, pour la parole de Dieu, l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau. Je vous ai mis juste deux références, celle qui est entre parenthèses, on ne va pas forcément la lire, mais on peut prendre en 1 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 13. C'est toujours pareil, là, le premier qui le trouve, s'il peut le lire.
En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit.
Voilà. Donc, qui que nous soyons, et on pourrait même, la liste être non exhaustive, qui que nous soyons, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, dans quel but ? Pour former un seul corps. Et ça montre déjà une première chose, c'est que le baptême du Saint-Esprit, il est pour tous. À partir du moment où on est de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit, et dans le but de former un seul corps. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 18, il est dit, parlant de Jésus-Christ, il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Donc Jésus-Christ est la tête de ce corps, qui est l'Église. Et nous avons tous été baptisés pour un seul esprit, pour être intégrés dans ce corps. Et Romains chapitre 8, verset 9, hein, si jamais il y avait un doute, nous dit que celui qui n'a pas l'esprit n'appartient pas à Dieu.
Donc, un chrétien né de nouveau, à l'Esprit de Dieu en lui, a été baptisé du Saint-Esprit et fait partie du corps de Christ. Et on voit hein, dans de nombreux passages que ce terme est utilisé dans le sens universel, l'ensemble de tous les chrétiens. En Matthieu 16, 18, Jésus-Christ va dire « Je bâtirai, non pas les églises, mais mon église. » Ou singulièrement, « Je bâtirai mon église. » Paul, à plusieurs reprises, va dire qu'il a été attristé parce qu'il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Non pas les églises, mais l'église. Avec un E majuscule, l'ensemble donc des chrétiens. Éphésiens 5, 26. Je l'attrape, Éphésiens 5, 26, sauf si quelqu'un l'a. Il nous est parlé hein, de l'Église. Hein. Et le Christ s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette Église, et moi dans ma traduction, il y a un E majuscule, parce que c'est vraiment voilà, l'épouse, l'Église de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs versets aussi qui nous montrent que Christ est la tête de l'Église. C'est lui le chef, c'est lui qui commande, c'est lui le pasteur avec un P majuscule, le bon berger. Et notamment dans Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23, si quelqu'un là, il peut le lire.
Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Voilà. Il a tout mis sous ses pieds, donc c'est de Dieu qu'il s'agit, et sous les pieds de Christ. Voilà. Et il lui a donné donc l'Église. Et le verset 23 du chapitre 5 dit ceci aussi. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église, avec un E majuscule de l'ensemble donc, des chrétiens, qui est son corps. Et il y a des choses merveilleuses qui nous échappent même au sujet de l'Église. Par exemple, toujours dans Éphésiens, je voudrais juste attirer votre attention sur le chapitre 3, le verset 10, où il est dit ceci, « Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Il y a un autre verset, une autre référence aussi, où il nous est dit que les anges plongent leur regard dans l'assemblée, donc dans l'Église, et vont louer le Seigneur, sont émerveillés de voir tout ce que Dieu en Jésus-Christ a fait avec l'Église. Et donc l'Église aussi, ça nous échappe souvent, hein, mais sert à la gloire de Dieu, y compris dans les lieux célestes. Dans Hébreux aussi, hein, il nous est parlé aussi de... Il y a des choses intéressantes, on va prendre Hébreux 12, versets 22 et 23. Si quelqu'un veut lire les deux versets.
Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Voilà. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et si on regarde le contexte général de ce passage, eh bien, on voit au chapitre 10 que l'auteur de cette épître va diriger nos yeux vers Jésus-Christ comme étant l'offrande par excellence. Il va parler de l'ancienne alliance, des lois, qui en fait n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Ça, c'est une autre référence qui nous en parle. L'auteur va parler aussi du sang de Christ, par lequel nous avons un libre accès auprès de Dieu. Et puis il va parler aussi de la foi. Le chapitre 12 d'Hébreux nous décrit ce qu'on appelle les héros de la foi, et qui ont choisi de croire en Dieu, finalement, et qui se sont appropriés les promesses de Dieu. Et il va enchaîner au chapitre 12 avec cette nécessité de marcher nous aussi dans ce chemin de foi en ayant les regards sur Jésus. Et donc c'est un contexte qui nous montre qu'il y a une décision personnelle qui est nécessaire. Et ce qui veut dire qu'être membre de l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui est héréditaire. Ça ne peut pas être par un acte lorsque nous sommes enfants. C'est vraiment un choix personnel. Tout le contexte dans les Hébreux nous prouve que c'est un choix personnel. Il faut donc qu'à un moment, nous ayons décidé de faire confiance en ce que Dieu dit. Et ainsi, nous passons de la mort à la vie. Nous devenons enfants de Dieu et nous sommes intégrés à cette Église, à cette épouse. Alors, il y a aussi des illustrations. Alors d'abord, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose à ce niveau-là, ou sur les versets que nous avons pu lire, ou est-ce que vous pensez à notre verset, peut-être? Non? Alors, il y a des illustrations qui nous aident à comprendre la beauté, finalement, de l'œuvre de Christ au niveau de l'Église. L'Église est appelée un édifice de Dieu. Donc, on peut lire dans Éphésiens, au chapitre 2. Les versets 20 à 22. C'est ça ou je me suis trompé? Non, c'est ça. Quelqu'un là?
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
Voilà, donc là, c'est l'illustration, l'image du bâtiment. Jésus-Christ est la pierre angulaire, ou la clé de voûte, la pierre principale sur laquelle tout l'édifice va s'appuyer. Et vous vous souvenez de ces paroles de Jésus qui disait « la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient », s'adressant aux religieux de l'époque, est devenue la principale de l'angle. Et on peut comparer cela aussi avec 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 et 11.
Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.
Voilà, donc ça, c'est un verset un petit peu similaire. Alors, j'avais eu l'occasion de poser aux jeunes une question à ce sujet, et ils avaient brillamment répondu. il semblait qu'il y avait une petite contradiction. Pourtant, c'est Paul qui a écrit aux Corinthiens comme aux Éphésiens. Mais d'un côté, il va dire que le fondement, c'est Jésus-Christ. D'un autre côté, il dit que le fondement, c'est en fait les apôtres et les prophètes. Donc, quelque part, il se contredit. Bon. Il faudrait savoir, est-ce que c'est les apôtres et les prophètes ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Je vous pose la question. Les jeunes avaient déjà répondu. Ils sont plus réactifs.
Les apôtres disaient tout ce que Jésus leur a dit. Alors c'est Jésus.
Voilà, voilà. En fait, le fondement des apôtres et des prophètes. Je vous cite par exemple 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Il nous est parlé des prophètes. Il nous est dit qu'ils ont fait de ce salut, donc de Christ, ils ont fait de ce salut, Jésus-Christ, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc les prophètes, en fait, ils regardaient Christ et le message des prophètes tourne nos yeux vers Christ. Donc le message des prophètes, c'est Christ. Et puis les apôtres, donc l'apôtre, on sait que Jésus-Christ, alors ça nous est dit dans Luc, au chapitre 6, les 12, oui, voilà. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Le chapitre 6, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres.
Donc apôtre, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire envoyé. Et en fait, on le voit aussi dans Actes, lorsqu'il a fallu remplacer Judas, il fallait que ce soit quelqu'un choisi qui était témoin, qui accompagnait Jésus et qui était témoin de tout ce qui s'était passé. Et les apôtres ont été missionnés, envoyés par le Christ pour qu'ils puissent annoncer tout ce qu'ils avaient vu. Donc le message des apôtres, eh bien, c'est Jésus-Christ. Le message des prophètes, c'est Jésus-Christ. Le message des apôtres, c'est Jésus-Christ. Et c'est véritablement la base de l'édifice que nous formons les uns et les autres en tant qu'enfants de Dieu. Et Christ est cette pierre angulaire. Je vois que je me suis noté aussi une pierre, je ne sais pas pourquoi, une pierre de 6. Oui, voilà. Il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc voilà, c'est toujours donc le message des prophètes, des apôtres, c'est véritablement Jésus-Christ. Et il nous est dit, on l'a lu, qu'il demeure, par l'Esprit, il demeure dans cet édifice. Ça, c'est une première illustration. Après, on l'a vu aussi, avec plusieurs versets, une autre illustration, l'Église est appelée aussi le corps de Christ. Par exemple, dans Colossiens, on a lu pas mal de versets, donc on ne va pas les relire. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. La paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Il y a beaucoup de choses intéressantes auparavant. On y reviendra sur ce verset. Mais voilà, vous avez été appelés pour former un seul corps. C'est donc le corps de Christ. Et sous cette figure, eh bien, l'Église est présentée comme un organisme vivant. Et chaque partie de ce corps a un lien l'un avec l'autre. Et chaque partie de ce corps est sous la direction de la tête qui commande toute chose et qui est Christ. Et on sait que toutes les parties de notre corps sont commandées par le cerveau, par la tête. Même des choses que l'on fait sans même y prêter attention, des choses vitales, eh bien c'est le cerveau qui commande tout cela. Et c'est Christ, voilà, au niveau de l'Église, qui commande tout, qui va distribuer les dons avec une diversité, mais avec aussi une interaction extraordinaire. Et c'est vraiment une figure qui nous permet de comprendre la grandeur, la beauté de l'Église, de l'œuvre de Jésus-Christ au niveau de l'Église. Et puis, une autre illustration aussi qui nous est donnée dans la parole de Dieu, c'est l'épouse. L'Église est l'épouse du Christ. Toujours dans Éphésiens, au chapitre 5. Verset 25, oui, à 27.
Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se sentir devant Dieu et irréprochable.
Oui. Rayonnante de beauté, tu as dans ta traduction. C'est intéressant aussi. Second, traduit un petit peu différemment, mais rayonnante de beauté, ou sainte, irrépréhensible, sans reproche. Voilà, voilà le regard de Dieu sur l'Église, sur son épouse. Et il y a beaucoup de passages qui nous parlent de cela. Et l'épouse attend son époux, son fiancé, le retour de son fiancé, et elle est dans cette attente impatiente de cela. Et Apocalypse chapitre 19 versets 7 et 8 nous dit ceci: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et il y a l'explication, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, parce que, voilà, les noces sont proches. Et le chrétien doit être quelqu'un qui a toujours ce regard fixé sur le retour de Christ. Parce que si nous attendons Jésus-Christ comme pouvant revenir, non pas dans 10 jours, mais tout à l'heure, dans la seconde qui suit, si nous l'attendons comme faisaient les premiers chrétiens, eh bien, cette attente va changer notre comportement. Parce que nous comprenons que nous ne sommes que de passage sur cette terre, que notre cité est dans les cieux. Et ça change tout dans notre vie. Et nous avons vraiment besoin d'être attentifs à cela. Il y a ce verset, je ne me rappelle plus de la référence, mais qui dit que vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qui va revenir et qui nous délivre de la colère qui vient. Voilà, servir en attendant. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire, servir en attendant le retour du Christ. Et c'est quelque chose qui change tout. Et l'épouse, eh bien, s'est préparée et se prépare pour ce retour qui vient bientôt. Alors voilà un tout petit résumé de ce qu'est l'Église universelle, donc l'ensemble des croyants, chacun d'entre nous, qui formons cette épouse si précieuse aux yeux de Dieu, qui sommes unis. Il y a cet autre verset qui dit que le mur de la séparation, qui séparait donc les juifs des païens, a été renversé en Christ. Et qu'ainsi il y a un seul corps. Et on pourrait dire que c'est entre les juifs et les païens, mais entre les païens eux-mêmes, entre les classes sociales, entre tellement de choses, voilà, il n'y a plus de séparation, parce que nous sommes unis en Christ, et nous sommes unis, non pas de façon artificielle, mais par son esprit. C'est lui ce ciment qui nous unit les uns et les autres. Et vouloir une unité qui n'est pas une unité dans l'esprit, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait inenvisageable. On avait vu aussi, notamment lors de la réunion d'hommes, on avait lu le premier couple, nos parents, donc Adam et Ève, et puis on sait qu'il y a là aussi une image de Christ et de l'Église. Il avait fait cette remarque que Ève n'a pas été tirée de la poussière, mais a été tirée d'Adam. Et c'est aussi quelque chose qui est parlant, parce que l'épouse, l'Église, ne vient pas du monde, mais vient de son époux, de Christ, et de Christ uniquement. Donc c'était quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde, qui n'a rien à voir avec une construction humaine, mais qui est uniquement l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non ? Alors on va faire une petite parenthèse pour voir quelque chose aussi qui est intéressant. L'unité entre chrétiens n'est pas une unité qui vient d'efforts humains. Nous avons notre part, bien entendu, et nous sommes exhortés à cela dans de nombreux passages, mais c'est un ciment qui est le ciment de l'esprit. Et c'est uniquement comme cela qu'il ne peut y avoir qu'un seul édifice qui va s'élever et qui va résister aux tempêtes, qui va résister à toute chose, parce que entre les pierres, il y a ce ciment divin qui est là et qui rend ce bâtiment inébranlable. On va lire dans Jean au chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un commandement nouveau, le meilleur des témoignages, c'est l'unité entre enfants de Dieu. Et puis on va lire aussi un autre passage dans Jean au chapitre 17. Alors, je vous le lis. Et je vais faire quelque chose qui ne doit pas se faire, c'est que je vais le sortir un petit peu de son contexte en l'arrêtant à un moment là. Et je fais esprit de cela, je vais vous expliquer pourquoi. Donc Jean 17, verset 20, c'est la prière de Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc pour ses disciples qui étaient là avec lui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc nous,
Jésus prie pour nous à ce moment-là. Et quelle est cette prière ? Afin que tous soient un. Et je m'arrête là. Je m'arrête ici. Et en fait, je fais esprit de m'arrêter là, parce que je voudrais qu'on parle un petit peu d'un autre, quelque chose qui peut être problématique. Est-ce que vous savez comment on dit la terre habitée tout entière en grec ? Vous connaissez ce mot, hein ? C'est œcuménia. Donc, l'Église œcuménique. C'est l'Église qui se propage à la terre entière. Donc c'est l'Église universelle et donc catholique. Hein, donc je vous mélange beaucoup de choses là. Hein, mais l'Église universelle, on pourrait dire aussi, hein, c'est l'Église œcuménique. Et lorsque Jésus a demandé à ses disciples, allez par tout le monde, hein, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas ce terme qui est utilisé, mais quelque part c'était l'Église œcuménique sur la terre habitée entière. Voilà. Ça c'est quelque chose qui est biblique. C'est donc l'épouse l'ensemble des chrétiens. Sauf que le mouvement œcuménique, c'est totalement différent. Le mouvement œcuménique, c'est tout autre chose. Et pourquoi j'ai cité ce verset, je l'ai tronqué ? Parce que c'est quelque chose qui revient très très souvent quand on entend des personnes qui prônent l'Église œcuménique dans le mauvais sens du terme. Ils vont toujours mettre cette parole de Jésus, hein, qu'il soit un. Hein. Je te prie Seigneur qu'il soit un. Il faut l'unité, et l'unité à tout prix. Et on va prendre d'autres versets dans Matthieu, au chapitre 13. Alors vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'avez pas compris, si vous avez d'autres pensées aussi. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Matthieu 13, 24 à 32, quelqu'un peut le lire. Je vous le dis. Jésus leur proposa une autre parabole et leur dit : le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivraie. » Liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et si vous regardez une photo de blé et d'ivraie, c'est très très semblable. C'est vraiment difficile de faire la différence entre l'un et l'autre, sauf que avec l'un on peut faire de la farine, avec l'autre on ne peut rien faire. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et puis, on peut prendre aussi dans Galates. On va s'arrêter un petit peu plus longtemps sur Galates. Chapitre 1, verset 6. À 8.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Tu peux même lire le 9.
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Qu'il soit anathème. Il va le répéter à deux reprises. Et si on lit le contexte, si on lit donc l'épître aux Galates, on voit que la mort, l'œuvre de Christ, leur a été clairement annoncée. Le salut uniquement grâce à l'œuvre de Christ, le salut par grâce. Et ce salut qui apporte une liberté, la véritable liberté. Si le Christ ne vous a franchi, vous ne serez réellement libre, a dit Jésus. Et les Galates ont vraiment été enseignés là-dedans. Et Paul va les encourager à tenir ferme dans cette liberté. Mais il y avait des gens qui les troublaient. Et qu'est-ce que ces gens faisaient ? Eh bien, tout simplement, ils venaient rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. C'était pas quelque chose forcément de flagrant, ce n'était pas forcément des mauvaises choses en elles-mêmes, mais ces gens rajoutaient quelque chose à l'œuvre de Christ. Et quelle est la réaction de Paul concernant cet enseignement, on va dire ce rajout à l'œuvre de Christ? Est-ce qu'il va leur dire que, bon, finalement, il faut collaborer et puis on va mettre de côté les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, hein. Quelque part, on ne veut pas diviser, il faut que nous soyons tous un, donc ça, on va éviter d'en parler. Et puis, de toute façon, ces gens-là, il faut aussi qu'ils entendent le véritable message. Donc, on collabore et comme ça, ils pourront découvrir le véritable message. Pas du tout. C'est pas du tout ce que Paul dit. Il va dire qu'il soit anathème. D'autres versions vont dire qu'il soit maudit, ces gens-là. Donc, Paul ne mâche pas ses mots. On veut rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. Paul est intransigeant. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de Christ est parfaite. Si vous êtes en face d'une œuvre, hein, d'un grand peintre, une œuvre parfaite, et que vous vous dites, bon là, je vais prendre un petit peu de décapant, je vais enlever quelque chose ici, je prends un petit peu de peinture, je rajoute là, finalement vous avez des taches, vous faites des taches, et l'œuvre, finalement, les regards sont attirés par ces taches-là, l'œuvre a perdu sa perfection. Et une œuvre humaine n'est jamais parfaite, donc c'est qu'une pâle image de l'œuvre de Christ qui, elle, est totale, il a tout accompli, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. C'est la perfection. Et si on ajoute ou on enlève quelque chose à la perfection, l'œuvre perd son caractère parfait. Et c'est ce qui se passait avec les Galates. Et proposer un évangile, proposer un enseignement qui porte atteinte à cette perfection, mais finalement, c'est prendre le risque d'envoyer à la mort des personnes qui seront perdues éternellement. Pourquoi ? Parce qu'on a falsifié le message de l'Évangile. Et c'est pour cela que Paul est intransigeant et qu'il a des mots qui sont très très durs. Mais est-ce que ce message est uniquement pour Paul et ses contemporains, ou est-il pour nous aussi aujourd'hui ? La réponse, vous la connaissez, ce message est pour nous aussi aujourd'hui. Et même si c'est un message qui est difficile, il est pour nous. Et nous avons à être vraiment vigilants à ce sujet. Et c'est vrai que quelque part, je peux avoir peut-être l'impression de rejeter mon prochain lorsque je suis comme cela, comme Paul intransigeant. Je veux dire, j'ai envie de dire que je n'ai pas le choix, puisque c'est Dieu qui me le demande. Mais regardez, on va lire dans Luc, au chapitre 5, l'exemple du maître, qui est accusé finalement d'accueillir. Luc 15, chapitre 1. Les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Cet homme les accueille. Est-ce que qui pourrait penser que lorsque Jésus était avec les publicains et les gens de mauvaise vie, il passait sous silence leur comportement ? Ben, c'est quelque chose qui est invraisemblable. Mais il les accueillait. Et parce qu'il les accueillait, il pouvait leur proposer de changer de vie. Donc son message n'était pas altéré, il ne passait pas sous silence les choses qui n'allaient pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'accueillait pas les gens. Et de la même façon, eh bien, ce n'est pas parce que nous avons un message que nous voulons vraiment fidèle à la parole de Dieu, que nous n'allons pas accueillir ceux qui rajoutent ou enlèvent quelque chose à la parole de Dieu et au message de l'Évangile. Nous voulons avoir un message fidèle pour tous. Et c'est vrai que le mouvement œcuménique a cherché finalement à surmonter ce problème de division dans le corps de Christ, qui malheureusement est souvent une réalité, mais en proposant ou en créant une union qui est une union tout à fait humaine. Et c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. C'est à première vue un idéal qui paraît formidable, mais c'est quelque chose qui ne peut pas marcher.
En fait, le mouvement œcuménique a un objectif. Et cet objectif, c'est l'unité. Or, l'unité ne peut pas être un objectif. L'unité est une conséquence. Notre objectif, c'est d'être unis à Christ. Et parce que nous sommes unis à Christ, eh bien, nous sommes unis entre enfants de Dieu. Parce que lorsque nous sommes unis à Christ, son esprit est agissant en nous, et c'est son esprit qui nous lie. Vous savez, c'est un petit peu comme une roue de vélo. Tous les rayons sont dépendants les uns des autres, mais pourquoi? Parce qu'ils sont reliés au moyeu. Si un rayon n'est plus relié au moyeu, automatiquement, il n'est plus dépendant des autres. Et ce moyeu, c'est Christ. Et nous voulons vraiment être fidèles à l'enseignement de Christ et que ce soit notre prière, que le Seigneur nous garde fidèles à son enseignement, sans rien ajouter, sans rien enlever. Et il est impossible de passer sous silence ceux qui vont agir différemment. Et c'est vrai que nous sommes appelés à aimer tous les hommes, même nos ennemis, même ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas réellement, et même ceux qui peut-être rajoutent des choses à l'œuvre de Christ. Nous sommes appelés à les aimer, mais nous ne pouvons pas passer sous silence ce qu'ils font, parce que la parole de Dieu est très sévère à ce sujet. Et on ne peut pas s'identifier à ce faux idéal qui est une unité en dehors de la parole de Dieu. Et à ce sujet, aimer tous les hommes, on va juste prendre aussi un passage dans Matthieu, au chapitre 22. Et on va lire versets 34 à 40.
Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Voilà. Donc, aimer Dieu et aimer notre prochain. Et vous vous rappelez aussi au chapitre 7 de Matthieu la règle d'or, qui a été transformée par les hommes d'ailleurs, faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Et dans le langage courant, on dit ne faites pas aux autres ce que vous voudrez qu'on ne vous fasse pas. Mais la parole de Dieu et Jésus, ça va au-delà. C'est faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Et ça, quelque part, quand ce sont des personnes que l'on aime, on va le faire. C'est pas insurmontable, faire aux autres, à ceux que nous aimons, ce que nous aimerions qu'on nous fasse, on peut le faire. Par contre, quand il s'agit de nos ennemis, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, Jésus va dire, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous méritez? Les publicains, les gens de mauvaise vie n'agissent-ils pas de même? Mais aimez vos ennemis. Et aimer nos ennemis, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas possible par nous-mêmes. Ce n'est pas un amour qui vient de l'homme. C'est un amour qui ne peut venir que de Dieu. Lorsque le Christ était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Lorsque Étienne, on va dire là c'est le Christ, lorsque Étienne a été lapidé, quelles ont été ses dernières paroles? Seigneur, ne leur impute pas ce péché, en parlant de ceux qui le lapidaient, de ceux qui l'avaient insulté, de ceux qui vociféraient contre lui. Seigneur, ne leur compte pas, ne leur comptabilise pas ce péché. Voilà ce que Étienne va dire. Ça ne peut pas être un amour qui vient de l'homme, c'est un amour qui vient de Dieu. Et on se rend compte donc que, pour aimer tout le monde, et donc pour accueillir, il faut aussi que cet amour soit déversé dans nos cœurs par Dieu lui-même. Il faut donc aimer Dieu. Mais aimer Dieu, on peut dire, moi j'aime Dieu, c'est facile à dire. Quel est un des critères, un des curseurs qui nous permet de savoir que l'on aime véritablement Dieu?
Sa volonté.
Oui.
Le vivre,
oui. Et quand on fait sa volonté. Quand on fait sa volonté, un test de notre amour pour Dieu, c'est faire sa volonté, oui, et qui nous permet effectivement de vivre cela. Et c'est ce que nous dit Jésus dans Jean au chapitre 14, Et vous allez voir où je veux en venir. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Au verset 23 ou 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc, si j'aime Dieu, j'aime ses commandements et je les garde. Donc, le test de mon amour pour Dieu, c'est finalement, est-ce que j'aime sa parole? Est-ce que j'aime ses commandements? Et si j'aime Dieu, je sais que je vais aimer comme il veut mon prochain. Donc je vais l'accueillir, quel qu'il soit. Donc c'est totalement impossible de se dire je ne veux pas parler de choses là qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, hein, parce que je veux préserver l'unité. Finalement, ça veut dire quoi? Qu'on met de côté une partie de la parole de Dieu. Et si on met de côté une partie de la parole de Dieu, qu'en est-il de notre amour pour lui? Et si notre amour pour lui est défaillant, notre amour pour notre prochain est défaillant aussi. Donc, garder la parole de Dieu, eh bien, ça me permet d'aimer mon prochain, de l'accueillir, sans pourtant faire des concessions sur eh bien, tout ce qui est la doctrine, la base, la parole de Dieu. Et je voudrais juste vous donner un exemple concret, et puis on arrêtera là, parce que le temps passe très très vite. Un exemple concret dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. On va prendre dans Esdras, au chapitre 4. Et c'est un exemple qui est très intéressant parce qu'on peut eh bien, l'appliquer encore aujourd'hui à toutes sortes de situations et on peut ainsi se positionner concernant l'œcuménisme qui veut une union à n'importe quel prix. Donc dans Esdras au chapitre 4, si quelqu'un le trouve, il peut le lire, versets 2 et 3.
Et les chefs des groupes familiaux pour leur dire : nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Haddon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici.
Voilà.
Mais.
Oui, voilà, oui, s'il te plaît.
Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent : il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse.
Alors, vous allez vous dire quel rapport? Donc, je vous explique. En fait, ces gens qui. Il y a la construction du temple, qui est quand même un travail vraiment très très important. On voit que les constructeurs, par moments, sont même un petit peu découragés. Et puis, voilà qu'il y a de l'aide. Des gens qui viennent les voir, qui se proposent, ce sont les Samaritains. Le contexte nous le dit. Ce sont donc les Samaritains qui se proposent de venir aider à la construction. C'est formidable. Hein? C'est formidable. Et en plus, ils disent, mais comme vous, nous adorons le même Dieu. Quelque part, hein, voilà, nous aussi, nous sommes chrétiens. Hein? Alors, ce n'était pas le cas. Hein? Ce n'était pas chrétien, mais voilà, on pourrait le transposer aujourd'hui. Voilà, on est comme vous, hein? On adore Dieu. Et donc, on va travailler ensemble. Et Zorobabel, hein, humainement, il aurait dû les accueillir à bras ouverts. Et voyez-vous, il a eu cette sagesse qui lui a été donnée par Dieu de dire non, c'est pas à vous. Nous, nous allons travailler, nous allons bâtir, nous allons vraiment construire ce que Dieu veut que nous construisions, mais nous, avec l'aide de Dieu, et ce n'est pas avec vous que nous allons le faire. Alors, qui étaient ces gens? Ces Samaritains. Eh bien, dans le deuxième livre des Rois, on a quelques explications. Au chapitre 17. Deux rois 17. Alors je vous lis juste quelques extraits. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, voilà, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël lors de la déportation. Ils prirent possession de Samarie, ils habitèrent dans les villes. Je saute au verset 28. Donc ils ont été après, ils ont eu des soucis parce que ils ont eu des soucis, puis se sont rendus compte que il fallait qu'ils adorent Dieu. Et donc, un prêtre a été envoyé. Verset 28, un prêtre avait été donc envoyé, il vint s'établir et il enseigna à cette population comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Et puis un petit peu plus loin, au verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Et verset 41, ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Donc voilà, hein, un petit peu brossé, quelles étaient ces personnes qui sont venues voir Zorobabel pour la construction du temple en disant, ben, nous aussi, hein, on sert le même Dieu et on veut vous aider. C'est en fait des personnes qui effectivement adoraient Dieu, mais en même temps, eh bien, adoraient leurs idoles. C'était donc des syncrétistes. Et donc, ils prenaient la parole de Dieu, mais ils y ajoutaient aussi quelque chose. Et Zorobabel nous donne de l'exemple. Ce n'est pas, hein, avec vous que nous allons nous associer. Pourquoi ? Parce que, hein, les choses ne sont pas claires. Et vous voyez, c'est un piège, une peau de banane sur laquelle le monde chrétien souvent trébuche, glisse, et c'est tellement tentant, eh bien, de dire oui, allez, on ne parle pas de ceux qui peuvent être différents, mais on va simplement se concentrer sur ceux qui nous rassemblent. Non, ceux qui nous rassemblent, c'est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, mais rien que la parole de Dieu. Et si on ajoute ou si on retranche quelque chose, la collaboration est absolument impossible. Et voilà pourquoi j'ai un petit peu voulu aussi parler de cela ce soir, pour quelque part aussi exposer la position de notre Église à ce sujet-là. Et c'est pour cela que des fois, eh bien, on ne va pas, par exemple, afficher une invitation pour un groupe qui va chanter des chants tout à fait évangéliques, tout à fait basés sur la parole de Dieu, mais qui, dans leur répertoire, ont des chants, par exemple, qui s'adressent à Marie. Et on se retrouve dans cette position, hein, de Zorobabel avec les Samaritains. Et ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui rajoutent à l'œuvre de Dieu. Et même si c'est difficile de dire non, eh bien, la parole de Dieu nous encourage à le faire. Et on veut le faire avec la foi, de savoir que, eh bien, puisque Dieu le dit, c'est que c'est ce qu'il faut faire. Et finalement, mais le message est beaucoup plus clair. Il n'est pas brouillé. Parce que qu'est-ce qui risque de se produire aussi, hein? Finalement, les gens vont se dire, mais finalement, bon, ben, vous comme nous, on est pareil. Hein? Finalement, il y a tellement peu de différence, on est pareil. Donc si on est pareil, hein, et que moi je suis dans quelque chose où j'ai rajouté à la parole de Dieu, et je dis, mais je suis pareil que celui qui suit toute la parole de Dieu, pourquoi je vais changer? Pourquoi je vais chercher finalement à être éclairé, puisque c'est la même chose? Vous voyez, le message n'est plus clair. Il est totalement brouillé. Et on risque ainsi de collaborer avec ceux qui, eh bien, ont échafaudé des doctrines, hein, desquelles Paul va dire, eh bien, qu'ils soient anathèmes. Et c'est ce que nous ne voulons pas faire. Et que le Seigneur nous garde vraiment à être fidèle à toute sa parole et à rien que sa parole. Voilà, je ne sais pas. Oui. Alors, anathème, d'autres traductions vont dire qu'il soit maudit. Voilà ce que dit Paul. Voilà, hein, voilà, peut-être que d'autres ont encore d'autres traductions sous les yeux, mais voilà, anathème, maudit, séparé de Dieu, voilà. Voilà
donc c'est. Je pensais que voilà. Anathème, c'était être avec Dieu.
Non, c'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse. Hein, voilà, hein,
merci.
Séparé de Dieu,
anathème.
Voilà, oui, voilà. Donc, quelque chose de très très dur, hein, qui est difficile, hein, peut-être aussi quand on est. Parce que, on l'a lu, hein, souvent l'ennemi se déguise en ange de lumière. Et quand c'est quelque chose de flagrant, on n'a pas de mal à trancher. Mais quand c'est quelqu'un qui est très très gentil, très sympathique, qui a un langage évangélique, hein, tout nous ressemble. Mais il y a quelque chose en plus ou en moins. Et ça change tout.
Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Il faut être tolérant, mais quand ça concerne des choses de la parole. Je crois que là, c'est pas être tolérant, mais il faut être strict. L'église de Béret, ils contrôlaient toujours ce qui était dit, ils regardaient dans la parole de Dieu ce qui était dit, si vraiment c'était écrit, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut. Et la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. D'où l'importance, nous, en tant que chrétiens, de connaître vraiment les Écritures, pour pouvoir, justement, quand il y a un problème, où on est confronté à des personnes, on est unis, on est tous des frères et tout, il faut être vigilant et savoir vraiment ce que nous dit la parole.
Ouais.
Puis on connaît ce proverbe qui dit que le diable se cache dans les détails. Ouais, c'est, comme tu disais, c'est pas, bon, il se déguise en lumière. Si c'était flagrant, vraiment, bon, ça ne peut pas passer inaperçu. Mais c'est dans les détails. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Et donc, finalement, on peut tolérer, même dans sa propre vie, juste un tout petit détail, un petit péché, mais de rien du tout. C'est pas grave, ça. Et bien, c'est là où notre vie spirituelle va achoper. Parce que le Seigneur ne peut pas tolérer qu'il y ait un seul milligramme, si j'ose dire, de péché dans notre vie. Bon, ceci pour nous dire que vraiment il faut faire attention aux détails. Souvent, grosso modo, tout colle, tout concorde. Il y a un petit détail, mais un détail quand même important pour faire chavirer toute la structure. Tôt ou tard, toute la structure va s'écrouler parce que ces détails-là va engendrer des choses de plus en plus grosses et grossières. Puis à un moment donné, ben, tout s'écroule. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, vraiment en tant que chrétiens, nous devons rester sur la parole de Dieu. Vraiment être convaincus que la Bible est la parole de Dieu. Parce que si on vous dit seulement, mais la Bible contient la parole de Dieu, mais il y a des choses qu'il faut vous regarder d'un peu plus près, on ne sait jamais, etc. Non. C'est là, c'est le petit détail qui va tout faire écrouler. Parce que toi, tu me diras ça. Mais qu'est-ce qui me prouve que toi, tu as raison, toi, tu as tort, toi, tu as raison. Et finalement, chacun fait un peu sa petite sauce dans son petit coin, et ça donne rien de bon. Il faut vraiment que nous soyons convaincus que la Bible, toute la Bible et rien que la Bible, est la parole de Dieu. Sans ça, tôt ou tard, dans notre vie ou dans la vie de l'Église, nous aurons des problèmes. Ou nous causerons des problèmes.
Et c'est pas être supérieur aux autres, pas du tout.
Non.
Parce qu'on sait que tout vient de Dieu, tout est grâce. Et aux scribes et aux pharisiens qui disaient de Jésus, il accueille les gens de mauvaise vie, Jésus va leur dire, mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin. Vous portez bien parce que vous vous trouvez bien. Ce sont les malades. Et nous, on sait qu'on a vraiment besoin du médecin et que le remède, c'est Christ. Mais si on rajoute ou on enlève quelque chose au remède, eh bien le remède perd tout son effet. Imaginez que vous êtes atteint d'une maladie qui est fatale. Et puis le médecin que vous allez consulter va vous dire, il n'y a pas de souci, il y a un médicament, et ce médicament permet de surmonter la maladie, et puis il n'y aura aucun problème, elle va disparaître. Et puis ce médecin sait que vous êtes un fan de remèdes naturels, de plantes, que vous avez trouvé sur Internet, là, quelques recettes, et dans ce que vous prenez, il y a un principe actif qui contrarie le médicament qu'il va vous donner. Et donc le médicament qu'il vous donne ne fera plus effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que vous prenez qui contrarie. Mais il dit, bon, mais quand même, je ne veux pas lui faire de la peine. On s'entend bien. Donc je ne vais rien lui dire. C'est pas la peine qu'il prenne le médicament et c'est tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Le patient, l'issue sera fatale. Et quelque part, c'est cela. C'est rajouter quelque chose qui, enlève la perfection que nous avons en Christ. Et c'est simplement cela, savoir que l'œuvre de Christ est parfaite et qu'on ne peut pas la toucher.
D'ailleurs, les derniers mots de la parole de Dieu dans l'Apocalypse, il est dit que si tu lèves un seul iota, il sera retranché. Dans l'Apocalypse 22, verset 20, chapitre 22 et verset 18, il est dit, moi je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit de l'arbre de vie et la ville sainte décrite dans ce livre. On a rajouté la parole de Dieu et toute la parole de Dieu.
Eh bien, on va arrêter là. Dieu voulant, la prochaine fois, donc on verra l'église locale et puis le fonctionnement aussi de l'église locale. Est-ce que quelqu'un veut prier pour terminer ?
Seigneur notre Dieu, combien nous voulons encore te rendre grâce de ce que nous avons pu entendre encore ce soir de ta parole. De reconnaître que, Seigneur, ton Église, c'est tous ceux qui ont accepté, Seigneur, tous ceux qui croient en toi et qui vivent de toi. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui en es la tête et nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, Seigneur, sachant que nous sommes faibles, mais, Seigneur, nous savons que nous sommes forts en toi et nous voulons marcher dans tes pas, nous voulons marcher dans ton chemin, parce que tu le dis, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons, Seigneur, vraiment être attentifs à tout ce qui peut se passer dans le monde et de regarder, Seigneur, à ce que toi tu nous dis. Merci encore de l'éclairage que tu nous donnes à travers ta parole, parce que toute écriture est inspirée, elle est utile, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous diriger, Seigneur, et combien nous avons tant besoin de cette parole de vie que dans nos vies, justement pour pouvoir marcher à ta lumière, Seigneur. Alors nous voudrions te demander, Seigneur, que tu fortifies chacun de nous ici présents et que vraiment nous sachions nous faire comme oui, les chrétiens de Béret, de voir tout ce qui peut être dit ou fait, de contrôler, Seigneur, à travers ce que toi tu nous dis, parce que ta parole est la vérité. Merci de nous fortifier encore toujours à toi, de nous permettre de marcher dans l'humilité, mais surtout dans la foi. De marcher, Seigneur, en ayant pleinement confiance et en ayant les regards sur toi, parce que tu es, comme nous l'avons dit, le chef de l'Église, Seigneur, tu es la tête, et c'est de la tête, Seigneur, que tout est dirigé. Eh bien, nous voulons nous laisser diriger par toi. Continue, Seigneur, à nous conduire vraiment dans cette foi sincère et vrai dans nos vies, que nous sachions marcher, même si on marche à petits pas, mais que nous puissions marcher dans ton chemin qui est la vie. Merci de ce que tu as fait, merci Seigneur pour ta résurrection, merci pour de savoir que tous ceux qui croient en toi, eh bien, nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur. Et tu nous as promis que notre nom sera dans le livre de vie. Bien, Seigneur, nous voulons te dire merci et de nous accompagner chacun et que jour après jour nous puissions marcher fidèlement avec toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Un bon retour à chacun.